C'est l'histoire de quelqu'un qui naît dans la merde, qui subit les aléas de la vie et qui malgré tout tente d'atteindre la sérénité. Un lotus dans un marécage. Cette fleur qui pousse dans le limon, traverse l'eau et s'épanouit au ciel.
Il y a l'enfance, l'adolescence, les causes, les conséquences des choix, en haute fréquence et doute, et les croyances.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
La résilience, c'est un outil nourrissant qui se donne un avenir sans se confiner dans le passé. Nabil Alami. La résilience, c'est comme l'amour. Un seul mot ne suffit pas pour en décrire les vertus. Patrick Louis-Richard. Bonjour tout le monde, Emmanuel Robitaille avec vous cette semaine pour les 60 prochaines minutes. On est tous des humains cette semaine qui va aborder le thème qui a été si bien préparé par Dizis la peste qu'on entendait pour amorcer cette émission-là. C'est l'histoire du lotus, du phénix, de tout humain qui a su tirer le meilleur de l'adversité. On parle, oui, de résilience. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme résilient? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est résilient? On a probablement tous et toutes un exemple en tête. On le décrit comment? Comment on fait pour savoir que quelqu'un est résilient? C'est quoi la résilience? Et quand est-ce qu'on devient résilient aussi? Est-ce qu'il y a un moment clé que l'on fait « poup, c'est correct, c'est une rémission physique, mais psychologique d'un événement difficile? » Y a-t-il des moments, est-ce que ça reste la résilience comme caractéristique ou ça peut venir et partir comme bon lui semble? Et comment on fait pour aller vers la résilience? On en parle avec nos invités de choix cette semaine, France Gauthier, Frédéric Philippe et Sylvie Rochette. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
France Gauthier, journaliste et animatrice pendant 20 ans, conférencière, auteure de 8 ouvrages, femme inspirée et inspirante, la spiritualité, la conscience humaine, c'est une passion et devenir toujours meilleur est le but de ta vie. Par un travail intérieur constant, tu partages avec les gens ton chemin vers la guérison des différentes blessures que tu as vécues dans ta vie. C'est le cas dans le livre « C'est quoi l'amour? » où on te suit dans cette période de cancer émotionnel que tu appelles. Mais également dans le livre « L'insoutenable légèreté de mourir » qui raconte l'accompagnement de ton âme sœur, ton âme jumelle, ta meilleure amie, Anne-Marie Séguin, qui est décédée du cancer à l'été 2016. Faire des épreuves, des tremplins pour la guérison, pour le bien-être, c'est ta mission personnelle, en plus d'en être l'enseignante pour plusieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Quelle belle présentation. Est-ce que tu voudrais être à mes funérailles?
Je fais mon possible. Je vais faire mon possible. Frédéric Philippe, tu es professeur de psychologie à l'UQAM, également directeur du laboratoire Élaboré, qui étudie comment des représentations mentales, comme des souvenirs, par exemple, leur organisation cognitive et leur structure émotionnelle peuvent influencer les comportements, les actions futures et la santé mentale. Donc, littéralement, tu t'intéresses à comment les émotions, leur impact et la signification qu'on donne à des événements peut influencer la motivation, la sexualité et la résilience, oui ou non, des individus. C'est ce qu'on va voir avec toi. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci.
Sylvie Rochette, tu es directrice générale chez Regroupement Partage. Tu as été nommée personnalité La Presse en 2005 et plus récemment récipiendaire du prix Thérèse Daviau en 2017. Tu aides ta communauté depuis 2 décennies et c'est pas parce que tu as manqué de matériel pour demander de l'aide toi-même. En 1997, tu reçois un premier diagnostic de cancer, un cancer du sein. 10 ans plus tard, en 2007, un nouveau cancer apparaît, celui de la thyroïde. En 2014, un deuxième cancer du sein qui n'est pas relié au premier et qui fait son apparition alors, c'est le troisième cancer auquel tu dois faire face. Et il y a 2 ans, en 2016, on a décelé une tumeur bénigne au cerveau qui a su être bien gérée et qui est complètement résorbée, qui est enlevée à l'aide d'une intervention, d'une chirurgie à l'heure où on se parle. Tu es porteuse du gène BRCA1. Qui est un facteur prédisposant à différents cancers. Donc, il y a plusieurs membres de ta famille qui ont été atteints de cancer, dont une de tes sœurs qui en est décédée. Tu es la résilience incarnée pour plusieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Merci à tous les trois. Et tout d'abord, bon, vous avez remarqué, tous ceux qui nous écoutent, que j'ai tutoyé gros comme le bras. C'est une entente, un consensus ici autour de la table. On parle des vraies affaires, on partage dans le vrai, dans l'authenticité. Tout d'abord, et je vais m'adresser à toi, Frédéric, est-ce que il y a une définition claire de la résilience, ou du moins, toi, en as-tu une à nous offrir ici, qu'on sache de quoi qu'on parle?
On peut voir ça selon deux angles, finalement, la résilience. Il y a des gens qui ont des caractéristiques particulières, hein, qu'on pourrait appeler des traits de personnalité, des différences individuelles. Hein, et ça, c'est une forme de résilience. Donc déjà, avant même d'avoir vécu des événements difficiles ou des surmonter des défis dans leur vie, il y a des gens qui ont des caractéristiques qui les aident potentiellement à surmonter ces difficultés-là.
Le gène du bonheur, mettons.
Ouais, si on veut. C'est, dans le fond, c'est des gens qui vont récupérer rapidement après avoir été secoués émotionnellement, aiment les nouveautés, qui vont être énergiques, qui ont des personnalités fortes, mais positives, hein, qui aiment les autres, qui aiment la vie, finalement. Souvent, ces gens-là qui ont ces traits-là de caractère, ben, ils vont un petit peu plus facilement faire face aux difficultés.
Et ça, c'est biochimique. On parle de dopamine, de sérotonine, on parle de vraiment des choses dans notre cerveau qu'on ne choisit pas. Là. C'est des prédispositions complètement.
Ça se développe. Ah! Ça se développe. Par exemple, ça va être associé à certains attachements plus sécures. Si on a eu des parents qui ont bien pris soin de nous, qui ont pris soin de nos besoins, on risque plus facilement de développer ces caractéristiques-là. Si on est à l'inverse, si on a eu des parents négligents ou qui nous ont laissés dans l'indifférence ou dans l'anxiété, ben là, ça va être un petit peu plus difficile de développer ça. Donc, il faut quand même le voir sur un processus développemental, mais c'est sûr qu'il y a des choses génétiques au départ qui vont expliquer pourquoi certains individus vont développer un peu plus facilement certaines caractéristiques. L'autre angle qu'on peut voir à la résilience, c'est vraiment plus dans un sens de processus. Alors, on vit des événements difficiles, et ça, ces événements-là, de la façon dont on va réussir à les intégrer à qui on est, comme personne, ça va déterminer si on va développer une plus grande résilience ou, à l'inverse, si on va rester bloqué sur ces événements de vie-là, puis qu'on va s'enfarger, que ça va devenir une faille dans notre vie, ces événements-là. Alors, ça peut devenir une force, ce qui est la résilience, ou un problème, une difficulté qu'on traîne avec nous, un boulet.
Et donc, la résilience, c'est quand même de faire quelque chose de potentiellement positif avec quelque chose qui, d'emblée, avait des grosse chance de finir en négatif. Il y a de l'adversité, c'est sûr. Les filles, est-ce que vous vous considérez résiliente?
Oui. Sylvie? Ouais. Oui, je me considère résiliente, mais je pense que c'est plus mon entourage et plus les gens que je côtoie qui m'ont d'abord signifié que j'étais résiliente, parce que pour moi, je ne mettais pas un mot sur cet état, sur cette façon de vivre, parce que moi, la résilience, c'est une façon de vivre. C'est mon mode de vie. Je l'étends non seulement vis-à-vis l'acceptation de la maladie, mais vis-à-vis tout ce que j'ai à vivre dans ma vie, les bons et les moins bons. Mm-hmm. Alors, être résiliente, ça peut être aussi simple qu'être dans circulation, pas se fâcher à côté parce que tu es dans circulation, puis de profiter du moment pour écouter une bonne pièce à la radio.
Ça recoupe un peu ce que Frédéric nous disait, dans la mesure où quand on a une attitude positive envers la vie, c'est un peu de la résilience d'exister, finalement.
Oui, parce et je suis assez d'accord avec ça, sauf que des fois, on peut avoir cette attitude-là, mais on ne le sait pas. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a des événements dans la vie qui nous font découvrir qu'on a cette attitude-là ou qu'on décide de développer cette attitude-là, parce que si on peut très bien l'avoir et décider de ne pas la développer, là. Mm-hmm.
France, pour ta part, est-ce que tu te considères résiliente?
Bien, d'abord, faudrait dire que ce terme-là est devenu à la mode dans les dernières années.
C'est un peu galvaudé, hein?
Puis qu'on sait pas trop ce que ça veut dire tant qu'on n'a pas vécu d'épreuves, probablement. Mais je te dirais qu'à mon avis, l'humanité est dans son entièreté résiliente parce que sinon, il n'y aurait plus d'humains sur la Terre. Nous vivons tous et toutes des épreuves dans notre vie. Et si on ne va pas construire ou faire pousser des fleurs à partir du compost de nos épreuves, bien, on meurt. Et il y a quand même 7,4 milliards d'humains sur la planète, là, puis des gens qui vivent des épreuves assez épouvantables. Et bien sûr, on ne peut pas comparer, parce que ça, je l'ai compris, là, moi, à partir d'une petite mini-peine d'amour, d'amourette de 3 mois pendant un été de temps, j'ai écrit un livre de 350 pages qui s'appelle « C'est quoi l'amour, entre autres », où est-ce que j'ai compris que cette petite...
Que j'ai lu avec grand intérêt.
Ce petit événement de l'extérieur, par exemple, ma sœur riait de moi, elle disait « Voyons, t'es bien folle, tu sais. » Et cette petite niaiserie dans ma vie est venue ouvrir de façon béante la blessure qu'il y avait là, dans le centre de mon être. Et c'est à partir de là que j'ai compris que, oh my God, OK, on peut descendre bien, bien bas, puis on ne peut pas juger la cause.
La qualité de l'adversité qu'on traverse, ça, je veux qu'on en parle. La reconnaissance aussi sociale autour de la résilience. On en parle en quelques instants.
Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. 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 Are poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center. All vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, whoa. trust the movement. I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen.
France, t'as dit quelque chose de super intéressant tout à l'heure. T'as dit tout le monde est résilient. Parce que d'exister, on dirait que ça implique l'adversité nécessaire et obligatoire. Et que pour exister, il faut faire quelque chose de pas pire avec la vie en général. Mais il y a quand même ces idées-là que le type d'adversité auquel on fait face joue un rôle, je trouve, social, à savoir si on reconnaît la résilience de quelqu'un
pas. Absolument. Puis en plus, tout étant tellement relatif, là, je vais donner l'exemple, tu en as parlé de ma belle jumelle d'âme, que je l'appelais alors ma meilleure amie Anne-Marie Séguin, qui est quand même relativement connue parce qu'elle est allée à Tout le monde en parle, il y a un film qui a été fait sur elle. Elle a fait de son chemin de fin de vie, là, son cheval de bataille. Bien, Anne-Marie a eu deux événements marquants dans les dernières années de sa vie. En 2011, en même temps que moi, elle a fait une espèce de shutdown en bon français de son système nerveux, où est-ce qu'elle s'est retrouvée à pu être fonctionnelle pendant des mois de temps. Et en 2013, un cancer. Et elle a toujours dit, 2011 a été beaucoup plus souffrant pour moi que le cancer. Et malgré tout, c'est le cancer qui l'a emporté. Fait que tout étant relatif, ça dépend de la souffrance qui va être associée à un événement ou à une maladie. Et dans son cas, à elle, d'être complètement perdu, dépourvu d'énergie, couché, pas capable de se comprendre pendant des mois de temps, comparativement à « je vais me faire opérer, j'ai un plan de match, je vais retourner ». Alors, il y avait cet aspect-là où est-ce qu'elle trouvait ça beaucoup plus souffrant, la souffrance psychique, que la souffrance physique.
C'est important parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit pas des fois est moins reconnu, alors que tu l'as dit, ta peine d'amour, elle était ton défi. À toi, donc il y a le niveau d'adversité qui est parfois là, mais il y a aussi le fait si ça nous arrive à nous ou aux autres. Est-ce que c'est plus facile de voir la résilience chez les autres que sa propre résilience, Sylvie?
En fait, je dirais que c'est plus facile de voir la résilience des autres que notre propre résilience. Parce que comme je l'ai dit dans le jeu tout à l'heure, moi, j'ai pas vu que j'avais de la résilience. Pour moi, c'est ça que j'avais choisi.
Tu fais ce que t'as à
faire. C'est ce que j'avais choisi de faire. Sur quelque chose dont je n'avais pas de prise, de que je fasse quoi que ce soit face à la maladie, je n'avais pas de prise sur le sort qui était réservé à la suite de ça. Mais d'accompagner, j'ai accompagné dernièrement ma fille, qui parce que nous, on est porteuse d'un gène, et qui à 26 ans s'est fait faire une mastectomie, et je vous dirais que c'était plus difficile pour moi de vivre ça que de vivre mes propres épreuves de maladie. Parce que c'était pas moi, parce que je ne pouvais pas aussi contrôler, je pouvais pas lui passer aussi ma résilience, mais parce que aussi, comment je pouvais l'aider aussi? Comment je pouvais l'aider dans ce qu'elle vivait? Est-ce que j'allais faire les bonnes choses? Est-ce que j'allais lui dire les bonnes choses? Est-ce que j'allais être à la hauteur de ce qu'elle avait besoin d'être?
Est-ce qu'il y avait un sentiment de culpabilité aussi? Non, parce que le gène, il se transmet de la mère
aucunement.
Aux enfants?
Non, d'accord. Aucunement. Ma mère a ce sentiment-là parce que tous les enfants, sur 7, on est 5 qui sont porteurs, dont 3 filles et une qui en est décédée. Ma mère, elle n'a pas la même âge que moi, elle a 92 ans, donc elle se sent très coupable vis-à-vis ça, mais nullement moi, non. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui est là, puis c'est ça. Mais je me sentais, en fait, vis-à-vis de ma fille, c'est que j'aurais voulu qu'elle n'ait pas ça à vie, parce que je le sais ce que c'est, moi, la conséquence d'avoir une mastectomie, puis je le sais ce que c'est, les conséquences psychologiques face à ça et les conséquences ultérieures face à avoir un conjoint et tout ça. Mais j'ai découvert que ma fille était résiliente, qu'elle avait une force extraordinaire.
Parce que moi, ce que j'entends, c'est que
cette résilience-là alimente ma résilience aussi. Là.
Parce qu'avoir la résilience, c'est une question de confiance en l'autre. Puis tu l'as bien dit, tu l'as dit, est-ce qu'elle a ma résilience? Est-ce qu'elle va avoir ma résilience? C'est comme si on n'a pas le contrôle sur comment l'autre va vivre sa difficulté. Parce que, Frédéric, c'est vraiment une question de perception. Là.
Mais il n'y a jamais une résilience pareille. Hein? Puis c'est ça, dans la difficulté avec un enfant, c'est qu'on veut tellement pour lui, puis on contrôle pas, comme tu as si bien dit. Puis c'est ça qui est angoissant, c'est qu'on aimerait le contrôler, mais on peut pas, puis tant mieux qu'on puisse pas le faire. Parce que je pense qu'il faut aussi laisser à l'autre développer sa propre résilience. Parce qu'il y a pas une résilience pareille. Une résilience, dans le fond, c'est un sens qu'on se donne à une maladie, à un événement. Et c'est fondamentalement ça. Et l'autre, il donnera son propre sens à cette résilience-là. Alors même si on voulait lui éduquer, lui inculquer notre propre sens, ça ne fera pas de sens nécessairement chez l'autre. Mmh. Alors, il faut laisser libre cours à l'émergence de sens chez l'autre, même si des fois ça prend du temps, même si on voit la souffrance chez l'autre. Et puis ça, c'est difficile quand c'est notre enfant, parce qu'on ne veut jamais voir la souffrance chez un autre enfant, ça c'est évident.
Ouais. Si tu me donnes l'idée, d'abord, est-ce que la résilience, ça ne serait pas une façon d'utiliser un événement de vie? Pourquoi? Pour nous amener ailleurs ou nous garder à flot? Parce que ça, c'en est une de mes questions. Et qui aura la réponse, je la prendrai. Ben, à savoir, est-ce que quand on est résilient, on devient meilleur qu'avant ou est-ce qu'on reste intact?
En fait, juste moi, ça, je pense que la résilience, c'est... la résilience est arrivée par instinct de survie, je pense. Mm-hmm. J'aime tellement la vie que j'avais pas envie de mourir. J'avais pas de prise sur ça. La seule prise que j'avais, c'est comment je vais vivre ce cheminement-là. Mm-hmm. Et ce cheminement-là a passé par la résilience. Et cette résilience-là, elle m'apporte tellement un bien-être parce que je l'ai partout dans ma vie maintenant. Partout, partout, partout. Et je pense que si j'avais pas vécu les épreuves que j'ai vécues, puis j'en ai vécu depuis que je suis toute petite, j'ai perdu mon père, je venais d'avoir 9 ans, on n'a passé au feu aucun souvenir d'enfance, tout est perdu à l'âge de 7 ans, là, ça fait partie de ma vie, les épreuves. Et je pense que si j'avais pas eu la vie que j'ai eue, je ne serais pas la personne que je suis présentement avec le bien-être, la sérénité, la sagesse et la résilience.
Mais moi, je me pose une question. Est-ce que la résilience... Parce que tu as parlé de sens tantôt. Mm-hmm. Est-ce que la résilience, justement, ça développe une certaine spiritualité ou est-ce que ça prend une certaine spiritualité ou quête de sens pour arriver à être résilient? Je ne sais pas selon les études psychologiques, mais moi, je vais au moins nommer mon cas. Jusqu'à l'âge de 33 ans, moi, j'étais invincible, indestructible. J'étais une journaliste d'enquête avec un front de bœuf et une arrogance. On va se le dire, démesurée. Et du jour au lendemain, je suis tombée très malade. Je me suis retrouvée à la maison, syndrome
dans
de fatigue chronique.
Vulnérabilité totale.
Vulnérable complètement. Ouais. Et là, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie dans le fer. J'avais aucune idée qui j'étais. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à cette quête-là de savoir qui je suis que la résilience est arrivée parce que du jour au lendemain, plus capable de rien faire, puis je suis plus une vedette, puis j'ai plus d'argent qui rentre. Je passais sur le pont Jean-Cartier, puis je regardais en bas, puis je me disais, hey, Christy, que ce serait pas long de régler ça, hein? Quelques secondes, ce serait réglé. Donc, j'avais zéro résilience, là. Et à partir du moment où je suis allée chercher le sens de tout ça, donc c'était un début de quête spirituelle, là, j'ai commencé à trouver de la résilience à l'intérieur de moi. Et c'est en commençant à méditer en 2006, 2007, après avec l'écriture inspirée, avec tout ce que j'ai développé comme ouverture de conscience, que la résilience est devenue quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant, mais qui n'était pas là au départ. Je sais pas.
Je pense
là.
Que tu en as mis un mot super important. Tu dis c'est devenu identitaire. Puis je pense que c'est exactement ça la clé. C'est que les gens qui en restent à l'événement ou à l'épisode ou à la maladie et qui ne sont pas capables de transcender, de faire sens avec cet événement-là, de l'amener à dire « qu'est-ce que ça veut dire de moi, cet événement-là? Qu'est-ce que ça me permet de développer comme personne? » Et ceux qui bloquent, qui vont en rester juste à l'événement, ben, c'est là où est-ce qu'il ne se passe rien. Puis c'est là exactement qu'on reste victime de ça. Puis que, par exemple, dans le cas de trauma, par exemple, on va avoir des flashbacks de l'événement, de la rumination autour de l'événement. Puis que là, il y a un dysfonctionnement qui vient des problèmes de santé mentale. Mais c'est du moment qu'on est capable de faire quelque chose de cet événement-là qu'on réussit à... quand on le rend identitaire, qu'on réussit à en faire quelque chose.
Mm-hmm. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains. We gon' walk it out and move mountains. And I rise up, I'll rise like the day.
The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move, I won't dance, bring it to its feet. Move, I won't dance. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. For you, for you, for you, for you. For that we have each other.
On parle de résilience cette semaine et on regarde quand on devient résilient, mais aussi les doubles tranchants à être résilient et comment on peut s'y rendre, si possible. Restez avec nous. Vous écoutez toujours « On est tous des humains ». Emmanuel Robitaille encore avec vous pour les 30 prochaines minutes. On continue de parler de résilience avec nos invités France Gauthier, Frédéric Philippe et Sylvie Rochette.
You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I'm titanium, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Down, but it's you who have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying bye. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away.
say you take your aim, fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. I am titanium. Stone heart, machine gun. Fight out the ones who run. Stone heart as a bulletproof glass. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
On parle de cette qualité, cette caractéristique, cette chose qu'est la résilience aujourd'hui. Et j'aimerais aborder cette caractéristique-là de la résilience comme double tranchant, parce que c'est quand même un peu comme le courage et la qualité de la peur. La résilience, c'est la qualité de l'adversité. Est-ce qu'on est fier d'être résilient, d'être courageux, d'être un guerrier, tu sais, finalement, là?
Mais moi, j'en ferais pas un métier, en tout cas, tu sais.
Ben,
mais t'as raison, parce que pour moi, la guerre est finie. Si j'ai retenu un message de ma chum Anne-Marie dans tout ce qu'elle a essayé de passer comme message dans son chemin de fin de vie face au cancer, face à la maladie, face à la mort, c'était « la guerre est terminée ». On ne peut pas être en guerre avec soi-même parce que le cancer étant une partie de soi. On ne peut pas être en guerre avec le fait qu'on est en dépression, par exemple, parce que, bon, on a perdu le sens. On ne peut pas être en guerre contre soi-même. Et ça, je trouvais ça fabuleux comme message. Puis pour moi, la résilience, c'est pas être en guerre. La résilience, c'est trouver cet espace de paix. Où est-ce que dans cet espace de paix, on a l'élan et le goût de continuer à vivre et de mordre dans la vie? C'est là, la résilience. Et moi, elle est arrivée avec des outils. Parce que si j'avais pas eu des outils, quand j'étais très malade à 33 ans, là, il a fallu que j'aille me chercher des outils. Ça m'a coûté 6 000 de frais parallèles en thérapie de toutes sortes. Et je m'en suis sortie parce que j'ai été aidée. J'ai levé la main. Si j'avais pas levé la main pour aller chercher de l'aide, c'est là que je l'aurais fait là, sauter dans le vide.
Et donc, mais lever la main, c'est super important ce que tu dis, parce que c'est là qu'on dit la résilience, ça part d'une volonté de base.
Voilà, c'est une volonté.
Et c'est un choix.
En fait, je dirais plus que c'est un choix que d'une volonté. Parce que c'est facile de dire que c'est une volonté. Les gens vont nous dire, ah, ben oui, toi, Sylvie,
parce qu'elle
par
voulait
exemple...
Pas.
Non, mais toi, Sylvie, t'es forte, t'es capable. Hey, la résilience, ça fait partie de toi. Non, puis c'est pas une question de volonté, c'est une question de choix. Moi, ma résilience, je l'ai trouvée, j'en parlais quand j'étais jeune, j'ai eu des épreuves et tout ça, mais elle est surtout apparue la première fois, le premier cancer que j'ai eu en 1997, où j'ai braillé mes émotions toute la nuit à la toilette. Et puis, à un moment donné, je disais tout le temps, je veux pas mourir. Je n'avais aucune prise. Je ne sais pas comment expliquer aux gens que quand tu es face à la mort, à la possibilité de mourir, puis que tu ne veux pas mourir, puis que tu n'as aucune prise là-dessus, c'est pas comme...
Pas de contrôle.
Non, tu n'as pas de contrôle. Tu sais, tu te dis, OK, je me divorce, ça va être difficile, j'ai une grosse peine, ça va pas bien, etc. Mais la lumière va être là. J'ai une épreuve financière, je peux prendre des moyens à un moment donné.
Mais c'est parce que la mort, on va se le dire, c'est irréversible.
On n'a pas de prise. On n'a pas de prise là-dessus. Tu sais, je peux pas dire, quand même que je dirais, je veux pas mourir, je veux pas aller vers là. Si mon corps décide d'aller vers là, je n'ai aucune puissance. Alors, ce que moi, j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour bien vivre ça? Puis c'est ça que je fais à partir de maintenant. J'ai décidé que je vivrais le temps qui me resterait à vivre, puis que je le vivrais bien, puis que je le vivrais en paix avec soi-même. Mais j'étais accompagnée aussi. Ça se fait pas toute seule non plus, tout ça, là, ce cheminement-là. Il faut,
Donc, si on n'a pas de contrôle sur l'événement, on a un contrôle sur comment on vit.
Comment on va réagir, voilà. Comment on va accepter cet événement-là, comment on va le gérer, comment on va le gérer, comment on va le transpirer en nous, en toutes nos actions. Oui, puis le vivre aussi avec notre entourage, parce que c'est quelque chose aussi que je pense que la résilience aussi est bénéfique, pas non seulement pour l'individu qui le vit, mais pour tout le monde autour aussi.
Mais j'entends ce que tu dis, Sylvie, t'as parlé d'une nuit où t'as pleuré toute la nuit, et pourtant tu restes quelqu'un de résilient à long terme, on va se le dire comme ça. Frédéric, est-ce qu'il y a un moment où on devient résilient? Est-ce qu'il faut être stable dans notre bonne humeur, dans notre foi et dans notre désir de bien aller pour être nommé comme résilient? Es-tu stable et y a-tu un moment clé?
Moi, non, mais je pense pas qu'il y a un moment clé. Je pense que si on voit ça comme ça, c'est pas quelque chose à atteindre. C'est un processus, la résilience. Donc, on est toujours en processus d'être résilient et ça finit jamais. Donc, et ça culmine toujours vers cette élaboration-là de la vie, du sens qu'on fait de soi-même, du sens qu'on fait du monde qui nous entoure. Alors, des fois, il y a un événement qui va être déclencheur de tout ça. Et puis c'est à partir de cet événement-là qu'on va construire tout ça. Mais ce processus de construction-là, il est infini. Et puis d'une certaine façon, pour beaucoup de gens, cette résilience-là, ce processus de résilience-là, bien, culmine vers un sens un petit peu de la mort. Parce qu'on apprend à vivre en culminant vers un sens de la mort. Puis c'est cette réalité-là un petit peu impossible à saisir là, qui existe chez l'humain.
Mais c'est intéressant le parallèle que tu viens de faire parce que il y a des étapes de résilience. C'est connu, elles ont été nommées par des gens qui ont étudié la résilience et c'est quasiment les mêmes étapes. C'est pas les mêmes étapes que le deuil, mais il y a des grands parallèles qui sont faits avec les étapes de deuil. Est-ce qu'on n'est pas un peu en deuil? Est-ce que c'est la mort de l'adversité, finalement, la résilience?
Moi, je voudrais dire que la résilience, d'abord, c'est pas de baisser les bras.
Ah, non plus.
Vis-à-vis quelque chose dans lequel tu n'as pas de prise. Au contraire. La résilience,
c'est pas se battre, c'est pas baisser les bras.
Non, c'est prendre une responsabilité.
Oui, puis c'est d'être bien dans ce que tu vis. C'est d'atteindre un bien-être dans la douleur que tu vis. Et ça se peut d'atteindre un bien-être dans une douleur ou dans un moment, dans une épreuve difficile. Et c'est ça, pour moi, la résilience.
Je vous pose la question à tous les trois. On a parlé de processus, on a parlé des difficultés. Tu en as eu plusieurs. Sylvie, tout le monde en a eu plusieurs. Est-ce que les difficultés à répétition nous rendent plus forts et donc plus à même de les transcender et donc de plus en plus résilients? Ou est-ce que l'accumulation des difficultés, c'est un peu de la chenoute, cette phrase-là, que ça nous rend plus forts et ça nous fatigue?
Hey, c'est une grande question parce que, tu sais, la phrase « ce qui nous tue pas nous rend plus forts », là, à un moment donné, on a envie de dire « ouais, mais ça va faire, là, n'en jetez plus, la cour est pleine », tu sais. Non, moi, je serais d'accord que c'est pas nécessaire. Tu sais, je travaillais pour Jean-Luc Mongrain pendant plusieurs années, puis il disait, tu sais, France, le trouble, c'est en option. Moi, j'ai bien aimé ça, cette phrase-là. Je crois que nous avons une responsabilité de créateur, c'est-à-dire qu'on crée notre réalité, et quand on comprend ça, bien, la douleur, puis la souffrance, puis tout le reste, c'est en option. Bien sûr que, oui, on peut vivre des épreuves malgré tout ça. On en vit tout le temps. Alors, ça devient une question de comment je vais vivre avec l'épreuve, tu sais.
Frédéric, je veux juste voir au niveau psychologique, est-ce qu'on a étudié ces idées-là, à savoir l'accumulation des souvenirs difficiles, des expériences difficiles rend les gens plus à même de couper, comme on dit en bon français?
Non, mais je pense que c'est pas l'accumulation. Je pense qu'en partant des fois dans la résilience, peut-être plus dans son sens populaire ou comment les gens l'observent chez d'autres, on dirait que des fois, il y a des personnes qui sont pas vulnérables à quoi que ce soit. Ou qu'on va dire, là, t'es une personne forte, ça. C'est pas vrai, ça, OK? Ça existe pas, des gens...
C'est un mythe, c'est un mythe.
Qui sont immuables, là, à quoi que ce soit. Donc, c'est pas vrai, c'est qu'il y a des gens qui font, « Ah ouais, voyez, donnez-en moi des événements difficiles. Moi, j'aime ça.
» Ben oui, je suis capable d'en prendre.
Ça existe pas, ça. Ça existe pas, ça. Alors, au contraire, hein, quelqu'un peut être fort par rapport à certaines choses, avoir développé un sens précis, important, qui l'a amené à croître psychologiquement dans un domaine, sur un aspect, puis être très vulnérable sur un autre. Ah, ça n'a rien à voir. Alors, l'humain se divise un peu en domaines puis en contexte, comme ça, on est plus solide à certains endroits qu'à d'autres. Il y a personne qui est invulnérable.
Il y a certains moments de nos vies aussi que d'autres, j'imagine.
Des périodes.
Mais on parle beaucoup de processus et dans quelques instants, on va voir comment on peut quand même essayer de se rendre le plus possible vers cet état de bien-être, de foi, de transcendance de l'adversité dans la résilience.
C'est jamais facile de marcher sur un fil, les deux pieds au-dessus du néant. C'est jamais facile pour un cœur en exil d'effacer un passé trop pesant. C'est quand on se pense invincible qu'on se découvre vulnérable. Parfois y a pas de vaccin possible. Parfois on ne trouve plus d'eau potable. Mais t'as dans les cas une résine qui résiste aux épines. Aux épines du temps. Et quand tu perds l'équilibre, elle te rappelle que le printemps. Jamais facile, les souffrances, les supplices, ça fait pas de jolies cicatrices. C'est jamais facile d'entrer en résilience en brisant la muraille du silence. C'est quand on se pense invincible qu'on se découvre vulnérable. Parfois y'a pas de vaccin possible. Parfois on ne trouve plus d'eau potable. Mais t'as dans le cas une résine qui résiste aux épines. Aux épines du
Sylvie, de quoi parlais-tu, dis-moi? Aimant la vie.
Oui, alors je parlais de résilience et courage.
Et on parlait de mandala parce qu'on parle beaucoup pendant les chansons.
Oui,
on va se
je parlais de résilience et courage parce que souvent les gens nous voient comme des êtres extrêmement courageux.
Oui.
Fort devant oui. tout et tout ça. Et c'est pas ça, la résilience. Moi, je pense que la résilience, c'est d'avoir choisi d'être bien et d'être heureuse. C'est ça, la résilience. Peu importe ce qui arrivera en sortant d'ici, ce qui est arrivé hier ou ce qui arrivera demain, je vais être encore heureuse dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas heureuse à 100% si j'ai une difficulté, mais il va toujours avoir une partie de bonheur dans ce que j'ai à vivre. Et même avoir eu le cancer, ça m'a apporté des moments heureux. Ça m'apporte que, maudit que les feuilles à l'automne sont bien plus belles, puis que quand c'est le fun de voir un oiseau, de regarder un oiseau, puis c'est le fun d'apprécier le vent frais sur mes joues l'automne, puis... Tu sais, des affaires où je sors de la maison puis j'entends un vol d'outarde. Hey, y a-tu quelque chose de plus magique que ça? Je l'aurais entendu avant d'être malade puis j'aurais dit, ben, j'aurais même pas porté attention. Mm-hmm. Maintenant, je le vis, je le sens, je le savoure.
Mais j'entends ce que tu dis, puis c'est vrai qu'être résilient, ça veut pas dire qu'on était courageux. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est dans une espèce de candeur, d'être fleur bleue, mais aussi d'avoir des lunettes roses de vie qui fait simplement qu'à travers ça, il y a des gens qui disent, moi, je l'ai même pas vu, là, tu sais, cette difficulté-là. Moi, je pense, et j'avais déjà apporté cette réflexion-là pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps ou ceux qui veulent retourner à cette émission sur le courage, dans l'émission avec Emmanuel, avec un M et deux L, toujours disponible en balado-diffusion sur le site du canalem.vusezvoix.com. Ce que je disais, en fait, c'est que le courage, j'ai l'impression que souvent, les gens, quand ils me trouvent courageuse de quelque chose, je leur dis « Ouais, mais c'est pas mon courage que vous voyez à ce moment-là. C'est le vôtre. C'est ce que vous, ça vous prendrait comme courage pour traverser ce que vous voyez que moi, je traverse. Mm-hmm. Parce que peut-être que moi, c'était une bine, un pet dans l'océan. Et que c'est de vous que ça parle. Et moi, je pense que la résilience a un peu le même effet. C'est un outil social pour moi, la résilience, qui a plusieurs ramifications. Et parlant d'outil social, je veux savoir, est-ce que vous sentez, parce qu'on les regarde de haut, on les louange, ces gens résilients, on est fiers d'eux et avec raison. Je veux dire, c'est fort d'avoir passé la mort, la maladie, la peine d'amour, la perte d'emploi, avec le sourire, avoir su s'en dégager pour devenir quelqu'un de meilleur ou à la limite même suffisamment fonctionnel pour avoir une vie, tu sais, pour vouloir rester ici, mettons.
Non, mais la résilience, ça ne veut pas dire d'être insouciant vis-à-vis des problèmes puis de les vivre avec le sourire tout le temps.
Non.
C'est pas ça que ça veut dire.
Mais quand même, est-ce qu'on devient avec une espèce de sens du devoir que de montrer l'exemple, d'être un mentor? Est-ce qu'on ressent une pression de personnes résilientes?
Moi, personnellement, je la ressens. Je la ressens dans le milieu où je suis. Parce que moi, je suis en relation d'aide, en intervention, en gestion de détresse sociale. Donc, c'est clair que j'ai cette pression-là qui est très forte sur moi, d'être toujours la personne forte en avant, qui mène le bateau, qui tire le leader.
Mais voyons,
t'es
pas tout le temps de même, toi?
Non, je suis pas tout le temps comme ça, puis c'est bien correct que je sois pas toujours comme ça.
À respect, à cligne des yeux, c'est un humain.
C'est bien correct que je sois toujours comme ça.
Effectivement.
Puis je suis contente de pas être toujours comme ça. Puis la résilience, ça veut pas dire d'être vulnérable vis-à-vis quelque chose ou d'avoir de la peine ou de ne pas pleurer ou de ne pas être découragé quelquefois. La résilience, elle veut juste dire d'accepter ça puis de le vivre, ouais. Ça. Mais de pas s'apitoyer, c'est ça la résilience.
Moi, je de pense, pas rester trop longtemps dans notre caca.
Dans notre apitoiement, là, d'être dans notre apitoiement. Je fais pitié, je vis telle chose. Oui, un certain temps, on doit se l'accorder, mais la résilience nous permet de sortir de ça puis de ne pas rester confortable dans l'inconfortable.
On a parlé tantôt d'aller chercher de l'aide. On veut parler d'outils aussi, parce que c'est bien le fun, mais si les gens... Moi, je vis dans une situation présentement où vraiment, je le vois pas, le bout, là. Comment je peux faire pour transcender les événements de ma vie? Tantôt, tu parlais du pont. Ouais.
Ben, moi, je te dirais que la première chose à faire, c'est de lever la main. Il y a toujours du monde autour de nous autres qui peut nous aider, puis demander, puis aller vers des outils qui peuvent nous attirer. Je voulais dire par rapport au courage, là, tu sais, que... Puis moi, je me retrouve devant des gens à enseigner l'éveil, la guérison, pas la guérison dans le sens de lève-toi et marche, mais la guérison de l'être, puis la guérison de nos thèmes de vie et tout ça.
Ouais.
Puis à chaque fois que j'ai une petite grippe, je me tape dessus, tu sais, parce que je me dis, voyons, tu peux pas... Alors, c'est pas ça. Moi, la résilience là-dedans, c'est de dire au monde, quand il me pose la question comment faire, là, que mais gars, si tu fais un pas en arrière, là... C'est permis. Parce que chaque pas en arrière que j'ai fait dans la vie, moi, m'ont permis de faire un grand bond en avant. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, ce serait de ne pas se relever. Fait que c'est là que la résilience, ça devient un outil en soi d'enseignement et d'éveil parce que ça s'apprend. C'est pas de tomber le problème. Ce serait de ne pas se relever. Et tout le monde tombe. Tout le monde, sans exception. Là.
Est-ce que l'idée de mettre un pas à l'arrière en voulant que ça nous amène plus loin en avant, ça ne serait pas ça la clé de la résilience? De vouloir avancer, même si ça passe par reculer un petit peu temporairement.
Mais
ou
aller de côté.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a personne qui va en arrière volontairement. T'sais, on retombe, puis quand on est en arrière, on se dit « Ah, mon Dieu, mais comment ça se fait? » Le problème, souvent, avec les gens qui ont avancé puis qui ont cheminé dans la vie, entre guillemets, à chaque fois qu'ils font un petit pas en arrière, ils s'auto-flagellent. Mais
ben non.
C'est là où est-ce que ça devient important d'appliquer le concept de la résilience. T'as fait un pas en arrière, rappelle-toi, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, ça t'a amené plus loin en avant. C'est ça l'idée.
Mm-hmm. Ben oui, puis je pense qu'on peut aussi voir dans ce pas en arrière-là, des fois, il y a aussi la dépression. On n'aime pas ça, la dépression dans notre société. On considère ça une maladie mentale que personne ne devrait avoir. Mais dans la dépression, c'est relativement sain et adaptatif, la dépression. C'est un moment pour prendre un recul, mm-hmm. pour se remettre en question, puis repartir sur une nouvelle base. Oui. Alors, c'est très adaptatif, la dépression. Et souvent, pour beaucoup de gens, ils vont partir de la dépression ou d'un moment très déprimant dans leur vie pour grandir, pour croire
davantage. Ils vont fleurir à partir de ça, c'est vrai.
En 30 secondes, un message à ces gens qui veulent devenir résilients de leur vie. Qu'est-ce qu'on leur dit?
D'accepter les choses, d'accepter les épreuves sans être dans de se rendre misérable et de s'apitoyer sur son sort, mais plutôt d'accepter d'aller chercher l'aide nécessaire pour pouvoir mieux vivre ça.
Oui, puis quand il y a des épreuves, là, d'aller vraiment les rencontrer et rencontrer l'émotion au lieu de s'en débarrasser.
Tout à fait.
Bien que tu vis des heures folles, t'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Tu sais, Lily, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brosse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. T'as toujours en banque quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. C'est vrai, Lily, tout finit par s'user. Nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. C'est vrai aussi, Lily, qu'il y a des coups qu'on voit pas venir, qui nous font douter de l'avenir, qui nous donnent juste envie de fuir. Chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble.
Gauthier, le guide de l'écriture inspirée qui est paru en septembre 2018, en plus de tous tes autres livres. Ça se retrouve en librairie, mais également sur ton site francegauthier.ca, où on peut trouver également les conférences, les ateliers d'écriture inspirée que tu donnes et des informations concernant le voyage initiatique, dont celui de Cuba qui s'en vient.
Oui, on part du 23 au 30, puis il reste quelques places sur l'avion.
On t'écoute également le vendredi de 10h à 11h, à l'émission Le Maître à bord au 103.3 FM. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci, Emmanuel.
Frédéric Philippe, toujours à la direction du laboratoire Élaboré. Si on est intéressé à voir ce que vous faites, ce que vous publiez, mais également participer aux études que vous menez, on peut se rendre sur le www.élaboré.org, section participants. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Sylvie Rochette, continue à redonner et donner à la communauté si on veut s'impliquer ou même recevoir de l'aide. On se rend sur le site de regroupement partage.org. CA, d'ailleurs, vous avez ramassé 200 000
.org.
.org. On peut-tu se rendre ces deux?
Oui, oui, on peut se rendre les deux aussi.
Je pense que oui.
La direction se fait.
Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Clotilde Seille à la réalisation. Jean-Sébastien, la liberté, oui, en régie. Et Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde et à la semaine prochaine.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.